Bien le bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des chiffres et des films, votre nouveau rendez-vous cinéma. En tout cas, on l'espère. Je dis bien on l'espère parce que je ne serai pas tout seul pour présenter l'émission. Bonjour Colin.
Bonjour Sébastien.
Comment vas-tu?
Très bien et toi? Très content d'être là.
J'espère bien.
Pour ce nouveau projet, voilà, très content d'y participer.
Nouveau projet et vous aurez sans doute reconnu Colin car vous avez là l'animateur de Au fil des bobines.
Oui, tous les mercredis de 12h30 à 13h sur Suze Joseph toujours.
Et que j'ai rencontré depuis mon adhésion au sein même de l'association Cinéphile, et avec qui j'ai envie de monter ce projet. Alors le projet du coup de déchiffrer des films, c'était de se réunir tous les deux, et éventuellement d'autres participants qui viendront par la suite, cinéphiles ou non cinéphiles, adeptes de cinéma ou pas, pour revenir sur des succès commerciaux ou alors même des échecs. Des films dont on a envie de parler, d'essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas fonctionné auprès du public, pourquoi ce sont d'immenses succès. Voilà, j'aimerais bien commencer, Colin, par définir ce que c'est pour toi un échec. Parce que pour cette première émission, on voudrait commencer déjà par un échec commercial, tout simplement.
Alors, on en a pas mal parlé en off, parce que je trouve qu'il y a... C'est une notion un peu...
C'est assez délicat,
ouais. Ouais, c'est une notion un peu complexe, en fait, qui peut avoir plusieurs critères, à la fois objectifs et subjectifs, sur ce que c'est qu'un échec, et selon aussi quel élément on prend en compte ou qu'on ne prend pas en compte. C'est assez important. Pour le cas d'After Earth, on va en parler, par exemple.
Ah si tu commences à spoiler le plan...
Je tease. Donc ouais, pour moi un échec, je le définirais moi c'est quand ça dépend en fait. Il faut pas confondre échec et déception commerciale. Une déception commerciale qui peut être perçue comme un échec, c'est quand un film n'a pas eu le succès attendu ou l'objectif fixé par les producteurs et les distributeurs. Une déception, un échec. Pour moi c'est quand ça va un peu au-delà. C'est quand en plus de l'échec financier, de la déception financière, ça devient aussi un film qui potentiellement peut faire perdre de l'argent, du moins sur le territoire local. Parce que c'est ça que la nuance qu'on va apporter, c'est le box-office mondial, qui fait qu'en fait beaucoup de films ne perdent pas vraiment d'argent en fait, d'un point de vue mondial. Donc ça va être pas mal le succès local qui va définir ça. Et ça c'est quand même un point très important dans ce qui est pour moi un vrai échec de l'histoire du cinéma. C'est quand son échec a de l'incidence sur les productions futures du réalisateur, du producteur, des acteurs, ou même encore plus des conséquences sur l'histoire du cinéma qui viendra. Ça c'est pour moi c'est l'échec ultime. Et on n'a peut-être pas tant que ça qui arrive à cet échec ultime d'accéder sur la perte d'argent et en même temps sur l'influence de l'histoire du cinéma.
C'est ça parce qu'on en a parlé en off justement pour préparer l'émission et sans doute les futures. Et c'est vrai que comme tu dis l'échec pur, le flop, parce que c'est un terme qui pourrait revenir également. Il n'y en a pas tant que ça. Dans l'inconscient collectif, quand on parle d'échec, on a un film avec un budget, donc une somme, un financement. Un film, pour beaucoup, est considéré comme un échec. Alors, je vais prendre l'exemple des films américains, des blockbusters. C'est un échec quand le budget n'est pas rentabilisé sur le sol américain. Donc, je vais donner un exemple tout bête. On va commencer du coup avec notre film du jour, After Earth, de M. Night Shyamalan. Le budget est élevé à 130 millions de dollars. Mondialement parlant, il en a rapporté plus de 243 millions. En soi, il est rentable. Mais sur le sol américain, je rappelle, pour 130 millions de dollars, il n'en a rapporté que 60 millions aux États-Unis.
Ce qui est vraiment, pour le coup, un échec assez fou. Mais sur son sol à lui, il a rapporté deux fois moins que le budget du film, ce qui est vraiment très gros.
Donc voilà, on voulait vraiment expliquer cette nuance parce que, en soi, mondialement parlant, c'est rentable, à moindre échelle, mais c'est vrai que là, pour le coup, en tout cas pour les producteurs, c'était un sacré échec déjà, After Earth. Un film qui était sorti exactement le 5 juin 2013, une année de mémoire qui était très science-fiction, parce que nous avions pas mal de sorties SF à ce moment-là. On avait le Oblivion de Joseph Kosinski avec Tom Cruise. On avait... Même si c'était des franchises, on avait Star Trek Into Darkness, Man of Steel. Et j'espère que, en tout cas, ça ne sera pas trop barbant pour vous puisque nous parlons de chiffres. Mais c'est ça aussi le principe des chiffres et des films. C'est d'essayer de prendre les chiffres et de vous expliquer le background d'un film, l'état d'esprit justement du public à ce moment-là, du cinéma de manière générale, les conséquences, on en a parlé tout à l'heure, auprès d'une carrière ou du cinéma en lui-même. Et c'est pour ça qu'on va essayer de rendre les notions de box-office, de rentabilité et autres un peu moins barbants.
Exactement.
Du moins, on l'espère.
Non, non, ça le sera. Ça le sera. Puis le film est assez passionnant à en parler sur plein d'aspects. Hein. Voilà.
Ah bah déjà, on va essayer de faire un petit background d'After Earth parce que, comme je le disais, c'est un film de Shyamalan. Il a déjà une carrière assez intrigante.
Shyamalan.
Pour vous dire, on commence par ce film parce que autant taper dans un réalisateur qu'on aime bien.
Oui, c'est un réalisateur qui me passionne assez, Shyamalan, pour plusieurs raisons. Je me suis refait sa filmo il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, parler d'After Earth au sein de sa filmographie est assez intéressant, même si. Même si c'est son moins personnel, hein, déjà on peut commencer par là, mais
c'est sûr.
C'est clair, oui, parce que même des films pas très bons comme Phénomène et Le Dernier Maître de l'Air dans sa filmo, lui ressemble beaucoup plus déjà, ça se ressent tout de suite.
Il faut déjà expliquer que Shyamalan, alors je ne sais pas toi, mais moi à titre personnel, je connais sa filmographie depuis Sixième Sens, je n'ai pas vu les films qu'il a fait avant.
Alors c'est vrai que je te dis, j'ai fait toute sa filmo, mais sauf ses deux premiers films qui sont en plus assez compliqués à trouver.
Plutôt,
surtout,
oui.
Surtout son tout premier.
Mais c'est justement, il a connu le succès et la notoriété grâce à Sixième Sens, suivi après d'Incassable, de Signe et du Village. Et c'est à partir de La Jeune Fille de l'Eau où ça commence un peu à déchanter de son côté.
En vrai, ça commence un peu avec Le Village déjà.
En termes critiques,
pas en termes de chiffres, parce que le village fait un très 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 bon score. Mais le critique commence déjà un peu à l'éreinter avec Le Village. Ça a commencé un poil avec Signe. Il y avait eu des critiques sur Signe déjà. Le Village, il commence à avoir des critiques sincèrement négatives. Vraiment. Où vraiment des gens trouvent que le film est mauvais. Certaines critiques assassinent le film. Mais il a encore le public avec lui. Et une partie de la presse aussi également. Bon, on peut en parler. Moi, Le Village, je trouve que c'est le plus raté de sa première période. Moi, je trouve qu'il y a plein de soucis qui vont pas avec Le Village. Et effectivement, il y a les premiers problèmes de sa filmographie. Mm-hmm. Parce que bon, on parlait, mais Shyamalan, on le sait tous, hein, c'est pas un secret. Mais c'est une carrière qui a reconnu multi rebondissements en termes de qualité.
Bah, justement, on va y venir après.
On va y venir. Voilà, je veux pas trop avancer le truc, mais il a une carrière intéressante, mais qui assez rapide. Rapidement, dès Le Village, en fait, montre déjà ses premières faiblesses et qui après vont faire que s'accentuer, à mon sens. Alors, j'aime bien Jeune Fille de l'Eau pour plein de raisons, mais c'est un film qui a beaucoup de faiblesses également.
Parce que tu disais justement qu'il avait encore le public avec lui, mais c'est à partir de La Jeune Fille de l'Eau qu'il va commencer à le perdre et le perdre et le perdre et le perdre au fil des temps avec Phénomène, justement. Son tout premier blockbuster, il me semble, qu'est Le Dernier Maître de l'Air, donc l'adaptation de la série animée Avatar, Le Dernier Maître de l'Air, et qui avait perdu les droits du titre par rapport, bien sûr, au Avatar de James Cameron.
Il est sorti deux, trois ans avant, je crois, quelque chose comme ça.
Oui, parce que c'était en plein boom de la 3D à ce moment-là, et il était sorti après.
Le film n'était pas vieux, J'ai l'impression que Dernier Maître de l'Air a provoqué plus de haine envers les gens. Mais je pense parce qu'on attaque à quelque chose qui était assez populaire et aimé. C'est pour ça, je pense, qu'il y avait peut-être plus de colère envers Shyamalan. Parce qu'on en parlera, mais After Earth, la colère, elle n'était pas tant envers Shyamalan, en fait.
Non, pas du tout.
Elle était vers quelqu'un d'autre.
C'est vrai que là, je te rejoins parce que ça commence déjà un peu à crier autour de l'adaptation Netflix de Dernier Maître de l'Air.
Ah oui, j'ai vu qu'elle allait arriver.
J'ai même pas vu la bande-annonce ou des images.
J'ai vu des photos qui, visuellement, ont l'air d'être un peu plus fidèles, mais en même temps, moi, je retrouve pas mal le film dans
l'esthétique. C'est un peu ça, oui.
Hein, donc, je retrouve cette même image terne que le film, les mêmes acteurs qui font des gueules d'enterrement là où dans la série animée, c'est vraiment plutôt des personnages rigolos. En tout cas, avec beaucoup de vivacité d'esprit, en tout cas, très très expressif. Voilà, il y a un comic relief, je veux dire, dans le film, essaye de deviner qui est le comic relief. Enfin, vraiment, quoi. C'est le personnage qui est censé être le comic relief dans le dessin animé.
Et il était plutôt sérieux.
Ah, il est ténébreux, il est tout le temps en train d'être pessimiste. C'est pas du tout fidèle, quoi. J'ai vu des images, hein, mais moi, ça ne me rassure pas nécessairement, la série Netflix. Hein. J'ai pas l'impression qu'on apprend de ses erreurs. Après, on verra.
Et c'est quelques années après Le Dernier Maître de l'Air que sort After Earth. Vous l'aurez compris, Shyamalan, il était dans une très mauvaise période et c'est peut-être pour ça qu'il a atterri sur ce projet qui n'est pas de lui.
Enfin, les projets qu'il réalise, en tout cas, After Earth, c'est le seul, hein, vraiment. Et tous les autres, il est à l'initiative, il est le scénariste de départ. Là, il est crédité en tant que scénariste, en tant que co-scénariste. Dans After Earth, là où je crois qu'il n'est pas tout le temps accompagné dans ses autres films.
Il est souvent seul.
Il est souvent seul. Hein. Donc déjà, ça dit déjà un peu quelque chose. Ce qui est génial avec After Earth, c'est que tu peux deviner plein de choses juste en lisant le générique. C'est assez génial. C'est vraiment, tu peux déjà imaginer la gueule du projet et le pourquoi du projet juste en regardant de comment est fait le générique. Il y a une autre mention de quelqu'un, mais j'aime bien qu'on le tease un peu.
La personne en question. De toute façon, on va un peu couper le suspense, hein, parce
vous le savez, je pense.
Bah oui. Mais pour ceux qui connaissent pas, After Earth n'est pas l'idée d'un producteur en soi. Ce n'est pas l'idée d'un scénariste.
Si. C'est un producteur.
Bah, sur le coup, il est producteur, en effet. C'est un acteur mondialement connu, un certain Will Smith.
Connu pour... pour être un acteur... l'acteur de Men in Black, par exemple. Pour ne citer que ce film-là que j'aime avec lui, par exemple.
Moi, il y a Independence Day des années 90 aussi, pour rester dans cette décennie.
Non, mais je trouve que c'est un acteur qui sait jouer certains rôles qui sont faits pour lui coller à la peau. Mais je trouve globalement, si on peut être cash direct, que c'est un peu une arnaque. Mais Will Smith, voilà.
C'est surtout, la plupart des grandes stars, un businessman qui a un ego surdimensionné.
Mais c'est effrayant.
Et c'est de là qu'est venue justement l'idée d'After Earth, quelque part. Enfin, l'idée en soi de faire un film de SF, non. Parce que l'idée, elle est tout drôle. Il regardait je crois que c'est un documentaire ou une série qu'il regardait en famille. Et c'est au fur et à mesure qu'il en discutait avec son beau-frère, au fur et à mesure d'écriture et de discussion, c'est devenu le film de science-fiction qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Donc c'est juste une lubie de Will Smith de vouloir permettre la mise en chantier de ce film.
Parce que dans le générique, c'est marqué d'après une histoire de Will Smith.
Exactement.
Moi, j'ai ma théorie, je suis sûr que son idée, elle s'arrête là. Elle s'arrête à ce reportage qu'il a regardé en famille. Mmh. Il a émis l'idée vite fait à quelqu'un. Et j'ai aucune preuve pour affirmer ce que je dis là, mais c'est vraiment mon intuition. J'ai l'impression que son idée d'histoire, elle s'arrête là sur l'idée de la relation entre un père et un fils quand il a vu un reportage à la télé. Et après, le projet s'est fait, quoi. Je mets mon petite idée que ce nom d'après une histoire de Will Smith, ça sera avant tout une histoire de sous et une histoire de marketing plutôt qu'une histoire de réalité artistique. Bah,
grandement, parce que là, on a vraiment dans le film la famille Smith, j'ai envie de dire au complet.
C'est incroyable.
Parce que, il y a l'acteur qui amène son propre fils, hein, Jaden, c'est bien ça.
Jaden Smith, ouais.
Qu'il avait déjà fait découvrir dans À la recherche du bonheur.
C'est ça. Et dans Karate Kid, dont il était producteur.
Le remake, oui.
Le remake dont il était producteur, Will Smith.
Et donc là, c'est un film pour mettre en avant son propre fils. Hein,
Il le met en avant dans la plus difficile des choses. Alors, moi, je trouve qu'il est extrêmement mauvais, Jaden Smith, parce que je pense que de toute façon, c'est pas un bon acteur.
Ah, la scène où justement il pique une crise.
Il y a des moments un peu drôles.
C'est devenu un mème, ça.
Il y a des moments un peu involontairement drôles avec Jaden Smith. Il joue tout seul sur un fond vert. C'est jamais simple.
Non, ça c'est vrai.
C'est pas simple de faire ça. Et je pense qu'en plus, sa mauvaise idée venait de là aussi, quoi. C'est de faire jouer son fils tout seul. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé vraiment de quoi parler le film exactement, mais.
Non, et ça je reviendrai là-dessus parce que c'est vrai que c'est. Le concept en soi, c'était pour moi une des meilleures idées du film. La Terre, elle est devenue inhabitable. Qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il s'est barré, il a essayé de trouver d'autres planètes, et il en a trouvé une. Bien sûr, les siècles se sont passés, et on a ce père et ce fils qui ont une relation assez difficile, parce que lui, il est, ranger, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ranger, il aimerait bien que son fils suive la même voie, sauf que le fils, par peur, parce qu'il a certaines émotions. Être ranger, il ne faut pas exprimer de peur, c'est ça? Ou il faut s'en servir. Et son fils n'y arrive pas.
C'est d'où vient le... Alors, ce serait spoiler le film, hein, mais c'est d'où vient le conflit entre le père et son fils, moi, que je trouve incroyable. C'est d'où vient la rancœur que le père a pour son fils. Il se trouve que sa grande sœur est morte, tuée par un monstre.
Oui, ça j'y reviendrai aussi après l'histoire du monstre.
Et alors, je sais un spoil parce que vraiment, t'apprends vraiment le ressenti négatif que son père a sur son fils au fur et à mesure du film et plutôt vers la fin. Tout simplement parce que son fils, âgé à l'époque de 5 ans, de ne pas avoir affronté un monstre de 3 mètres de hauteur
et qui pour protéger pas sa mal
sœur,
de gens.
Qui tue pas mal de gens pour protéger sa sœur. Mmh. Et c'est vraiment montré comme un truc premier degré, d'un vrai truc, un vrai conflit intérieur. Ça rend juste le personnage juste antipathique et ça rend une raison complètement absurde, quoi. C'est jamais tu crois à cette relation en partie à cause de ça. Mmh. C'est pour dire que je trouve le film vraiment très très mal écrit, en fait. Les enjeux du film sont extrêmement mal écrits, pour pas dire extrêmement maladroits, quoi.
Et c'est pour ça que justement à un moment le père il est envoyé sur une colonie, une autre planète, il demande à son fils de l'accompagner et pendant le voyage il y a un problème de météorite. Du coup, le vaisseau, il s'écrase sur la Terre, qui est normalement en quarantaine depuis des siècles.
Comme de par hasard.
Comme de par hasard. Une Terre où la nature a repris ses droits, et ça avait été vendu, je me souviens à l'époque, l'endroit sur Terre où l'homme n'a plus sa place, tout est dangereux pour l'homme. Et c'est, ça, par contre, c'est ça que j'avais apprécié dans l'annonce du projet, c'était ce retour à l'état sauvage de cette terre, où j'ai envie de dire, même le moindre animal, ça pouvait faire le lien avec phénomène, la moindre végétation pouvait être une menace, sauf qu'on nous met ce monstre. Et je trouve, moi, il gâche tout, ce monstre.
Complètement.
Il n'a rien à faire là.
Complètement d'accord. Effectivement, le film aurait été bien plus fort si les créatures qu'on voyait paraissaient extrêmement réalistes. Et que ça soit peut-être nos animaux qu'on a connus avec, allez, une mutation,
une certaine évolution.
Parce que c'est vrai, ça fait des millions d'années qu'ils vivent sur une terre non habitée par l'homme.
C'est ce qu'on voit en partie dans le film, avec les singes et l'espèce de condor. Là.
Voilà, alors, l'idée de départ, effectivement, elle n'est pas déconnante dans la filmographie de Shyamalan.
Pas du tout. Et même en termes de SF, c'est intéressant.
Oui, c'est pas intéressant.
C'est peut-être pas le premier à le faire, mais c'est intéressant.
C'est une dimension écologique, alors pas méga subtile, hein, je te l'accorde, mais c'est cohérent dans la filmographie de Shyamalan, dans ses thématiques. Effectivement, dans Phénomène, il parlait énormément d'écologie, il en parle dans La jeune fille de l'eau aussi, du respect de là où on vit, de la terre, de là où on vit. Même dans Le Village, quelque part, même dans Signe, quelque part, il y a un peu de ça. Je ne dis pas que c'est les thématiques principales, mais il y a un peu
ça ressort.
Mais ça ressort, il y a un peu de ça en fond. Il y a quand même l'idée de respecter la Terre et l'endroit où on est. Et c'est très fait aussi dans sa façon de filmer. Je pense à Knock at the Cabin.
Qui est sorti en début d'année.
Qui est sorti en début d'année, que je trouve vraiment excellent. Je ne l'ai pas encore revu, j'attends vraiment de le revoir. Mais
ça, il pourrait faire aussi un objet parce que...
Il n'a pas marché, ouais.
Pas tant que ça, non. Déjà, je pense qu'une des premières choses qui fait que After Earth n'est pas fonctionné, c'est sa piètre qualité. Parce que là, on parlait déjà des problèmes d'écriture, on parle justement des effets spéciaux, pour le budget qu'on a, c'est limite. Hein, c'est...
Je crois que vraiment que les animaux en 3D, ça fait partie des plus mauvais que j'ai vus depuis ces dernières années.
Je le revois encore courir, Jaden, justement sur le flanc du volcan, et tu vois vraiment que c'est un décor rajouté. C'est...
Il court extrêmement mal, hein. Ça, il faut le préciser.
Personne n'est pas Tom Cruise. Hein.
Non, c'est assez incroyable, non mais quand à chaque fois qu'il court, c'est des barres de rire. Hein. Vraiment, c'est il a, il, je suis désolé, hein, Yaden, hein, mais t'as un jeu très nerdardesque. Hein. En tout cas, dans ce film, tu l'as vraiment. Dans d'autres hein, aussi, hein, dans Karate Kid, il est pas bon. Mais heureusement que le film est meilleur que son jeu, ce qui fait que ça passe. Mais et qu'il a un Jackie Chan très très convaincant à côté, ce qui fait que ça va. C'est ce que je répétais tout à l'heure. Dans After Hours, il est quasiment tout seul. C'est un film avec de la famille Smith, avec un Will Smith en fait assez effacé.
Éteint.
Bah parce que la grosse partie du film, il le fait sur une chaise.
Il a la pirouette scénaristique que pendant l'accident, il est blessé. Sa jambe est cassée et il ne peut plus bouger et il ne peut que dicter les ordres à son fils à distance. Et s'endormir même.
Donc même une idée qui aurait pu être une force, c'est-à-dire la complicité entre un père et son fils qui jouent ensemble, même ça, il l'exploite pas. C'est assez incroyable.
Et même en termes d'acting et de ce que représente le fait de voir Smith, père et fils jouer, c'est la passation. Une passation, justement. Le fils qui a du coup joué depuis le début, entre guillemets, dans l'ombre de son père, donc fils à la recherche du bonheur, dans un film produit par son propre père et Karate Kid, là, c'était une métaphore de la passation, peut-être. Voler de ses propres ailes.
Peut-être, il y a un peu de ça, c'est vrai.
Ça aurait pu.
Ça expliquerait aussi pourquoi Will Smith décide de se mettre en arrière, parce que c'est quand même pas du tout son habitude.
Pas à ce point, non.
Je voudrais quand même rappeler les raisons de pourquoi il ne joue pas Django dans Django Unchained de Tarantino. Hein. C'est qu'il voulait absolument que ce soit lui qui bute DiCaprio dans le film. Parce que moi, je spoil Django, hein, mais pour ceux qui ont vu Django, c'est pas le cas. C'est le personnage de Christoph Waltz. Will Smith voulait absolument que ça soit lui. Parce qu'il dit, mais s'il te plaît, laisse-moi, c'est moi le héros, c'est moi qui... Donc voilà, pour vous situer un petit peu l'égocentrisme du mec dans ses projets. Quoi.
On peut citer aussi Suicide Squad, où il avait pas mal insisté pour que son personnage Deadshot ait une certaine présence, un certain temps de présence pendant le visionnage.
Oui.
Et ça, c'est justement une des critiques qui a été faite sur Suicide Squad.
C'est ça.
Qu'on a quand même un certain visu sur la filmographie de Will Smith, son ego trip, il est quand même visible depuis longtemps. Mais je trouve que c'est à partir de ce moment et des critiques que tout le monde s'en est rendu compte. Tout le monde a mis le doigt dessus.
Oui, disons qu'on pouvait pas passer à côté, je pense. Là, c'était tellement gros que...
On le disait, une histoire de Will Smith, produit par Will Smith, avec Will Smith, joué avec Jaden Smith, produit également par sa femme et son beau-frère, pour le coup. Donc...
J'aimerais un peu resituer Shyamalan là-dedans, en fait. Je sais pas si t'en sais beaucoup plus, mais j'ai trop bien de théories dans la tête, hein, de comment il s'est retrouvé. Alors, si, on sait, il y a l'échec de Dernier Maître de l'Air, il a fortement joué, mais quand même, je sais pas si, je pense qu'il y a tellement d'autres projets opportunistes sur lesquels il aurait pu aller, qui étaient peut-être potentiellement bien meilleurs. Tu vois, je sais pas, James Wan a fait Fast and Furious 7. Et je trouve que Fast and Furious 7 est 10 fois meilleur qu'After Earth, tu vois, est bien plus intéressant. Non, mais je sais pas, il aurait pu partir sur une commande,
et de mettre son talent.
Et de mettre son talent sur ça, tu vois, une commande qui rapportera des chiffres de toute façon. Je sais pas, moi, Marvel, ou je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Même Marvel en 2013 était quand même pas mal. Marvel en 2013, il était en pleine montée encore, mais.
Mais je vois où tu veux en venir, c'est que. Déjà, Shyamalan, c'est un réalisateur qui a une patte et un style bien prononcé. Ouais. After Earth, il est effacé.
Il y a un
totalement.
Plan. Pour moi, il y a un plan qu'on voit le Will Smith allongé là, et puis il y a ce plan de la porte qui se referme.
Une espèce de bâche ou de porte assez flexible, oui.
Ça c'est très Shyamalan. De faire une construction de plan où il va vraiment jouer sur l'arrière-champ
et qui sort de l'ordinaire.
Sur le devant, sur un certain mouvement redondant qui revient, qui repart. Mm. Ça, c'est un truc qui fait assez souvent. Pour moi, c'est le seul plan où vraiment je dis, là, c'est Shyamalan. Mais pour moi, c'est le seul, vraiment. Quoi.
Totalement effacé, hein, en tout cas pour moi, parce que il y a toujours son nom qui apparaît sur les affiches. Là, celle d'After Earth, c'est encore une fois Will Smith et Jaden Smith.
Et encore, son nom qui apparaît sur l'affiche, il faut vraiment se baisser et s'approcher s'approcher à 2 cm pour voir son nom.
C'est le petit texte à chaque fois, justement, réalisé par, mais vraiment tout petit.
Hein. C'est-à-dire que son nom. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est que Shyamalan était devenu un réalisateur où on vendait des films sur son nom. Vraiment, vraiment, c'était devenu une star.
C'était devenu assez rapidement par le réalisateur de Sixième Sens.
Tout de suite, avec Sixième Sens. Dès que Sixième Sens sort, ça devient Real Star. Ça devient, mais vraiment, c'est un phénomène qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu. Peut-être le phénomène le plus récent, mais moi je trouve encore que c'est moins fort. Ce serait Jordan Peele, peut-être, qui a quelque chose.
Ça commence.
Peu, ouais. Qui a quelque chose d'un peu ressemblant, je trouve, dans en tout cas sur leur début de filmographie. Jordan Peele n'a fait que 3 films, donc on sait, on va voir. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le côté Get Out, me fait pas mal penser à Sixième Sens dans sa réception. Tu vois, mais je trouve que les deux films sont nommés aux Oscars, sont deux films d'inspiration très série B qui se retrouvent nommés aux Oscars, dont les acteurs se retrouvent projetés, mais surtout dont le réalisateur devient une vraie référence, où les deux sont comparés à Spielberg, d'ailleurs, c'est assez rigolo.
Beaucoup, oui.
Mais voilà.
À un moment, il avait écrit, je crois, enfin,
il y a le nouveau Spielberg.
Il avait fait une des versions qui a été lâché en cours de route de Indiana Jones 4, il me semble.
Ah ouais,
Shyamalan.
Ah, je ne savais pas ça.
Il en avait fait.
D'accord.
Une. Je sais pas si.
Franck Darabont, je sais, son scénario, paraît-il, était bien meilleur que le scénario.
Je sais pas si celui de Shyamalan, ils avaient gardé quelques petits détails, je m'en souviens plus. Mais il avait participé.
Il a travaillé sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
En effet, oui.
Il était prévu qu'il le réalise au départ, avant qu'ils envisagent Guillermo del Toro, qui leur conseillera le nom d'Alfonso Cuarón, parce qu'il n'était pas disponible à ce moment-là. Mais Shyamalan, à un moment donné, voilà, a bossé sur Harry Potter, tu vois. Donc pour preuve, je pense qu'il aurait amené sa patte, tu vois, dans Harry Potter.
C'est ça, mais je pense qu'il était pour moi un petit peu au fond du trou, parce que je pense qu'en termes déjà de chiffres, c'était plus ça. Les critiques, ça devait lui faire mal quand même, hein, parce que quand on dit mauvaises critiques, elles étaient quand même assez assassines, hein, pour la plupart du temps. Hein.
Et puis bon, on va essayer de recadrer les choses. On a parlé de l'ego de Will Smith.
On peut parler
de l'ego de Shyamalan.
La jeune fille de l'eau. Hein.
La jeune fille de l'eau, ouais. En vrai, en plus, c'est vraiment son plus gros problème. Parce que je trouve le film, il a vraiment pas mal de choses à lui, assez intéressantes.
Un petit exemple, justement, c'est que c'est un réalisateur qui se la joue un peu Hitchcock. Il apparaît dans la plupart de ses films. Alors, tu me disais justement, off, pas tous.
Non, je...
Mais parce que je citais l'exemple de After Earth, le film où on le voyait pas apparaître.
Il le fait moins, en fait. Vraiment, il va se réapparaître avec, pour moi, vraiment avec Split. Mais je suis presque sûr qu'il apparaît pas dans Phénomène. Ça a revérifié parce que t'avais un doute. Donc on revérifiera.
Je crois qu'il y avait certains films où c'était même juste un caméo sonore.
Peut-être que Phénomène est un caméo sonore. C'est pas.
Mais à vérifier.
Possible. C'est possible. Mais il apparaît pas dans The Visit. Ça c'est sûr. Et donc on en parlera en fin d'émission, j'imagine, mais qui est son film d'après After Earth. Et il réapparaîtra avec Split, parce que la différence avec Hitchcock, c'est que généralement. Pas tout le temps, mais plusieurs fois, il se donne des rôles.
Oui, parce que Hitchcock, c'est un figurant. Quand je dis caméo, c'est un figurant, c'est de l'ordre de quelques secondes.
C'est ça.
Shyamalan, c'est
on
comme
est...
tu dis, un rôle entier.
On est dans certains films, on
secondaire,
est...
mais
on
un
est...
rôle.
Dans certains films, on n'est pas dans le caméo. Dans Signe, on n'est pas dans le caméo. Dans Jeune fille de l'eau, pas du tout.
Pas du tout.
Il a un rôle même assez central.
Ah bah dans Hold.
Dans Hold, il a un rôle très central.
Knock at the Cabin, c'était plus caméo.
Knock at the Cabin, c'est un caméo par contre.
Oui, il apparaît juste à la télévision.
Il apparaît à la télévision. Sixième Sens, on peut dire que c'est un caméo.
Aussi. Oui.
Incassable, ça commence à se discuter déjà. Parce que son personnage a quand même une certaine importance. Mais moi, ce que j'aime bien dans Shyamalan aussi, c'est ses apparitions. Elles sont pas gratuites, elles ont un sens à chaque fois. Dans le Sixième Sens, il apparaît en tant que médecin au moment où on va découvrir le pouvoir. J'ai oublié le nom du personnage, excusez-moi. Le personnage du jeune dans le Sixième Sens, zut, je m'en veux énormément. J'ai même plus le nom du comédien, je m'en veux beaucoup.
C'est Joël Allais Osment.
Allez, Joël Osment, voilà.
Je l'ai pas dit dans l'ordre.
Et donc c'est à ce moment-là, dans Incassable, il fait monter celui qui va tout remettre tout en question les croyances de Bruce Willis qu'il commençait à avoir. Dans Signe, extrêmement important, c'est celui qui causera la perte de foi de Mel Gibson. Je peux continuer, mais dans Hold, je vais pas dire ce que ce sera un gros spoil.
Oui.
Je viens de me souvenir, voilà. Non, je pense vraiment, parce que là vraiment c'est peut-être là où il a le rôle peut-être le plus crucial. Mais voilà.
Mais c'est pour ça que je vois en After Earth le projet où Shyamalan se prostitue. Je veux pas être méchant dans mes propos, mais c'est un peu ça. Je fais le film qu'on me demande, je gagne du sous-sous, allez. Peut-être pour justement rebondir par la suite.
C'est complètement ça. Il va financer The Visit avec les sous qu'il a gagnés sur After Earth. Avec son cachet qu'il a eu sur After Earth. Donc complètement, je pense qu'il fait ce film pour pouvoir ensuite repartir à zéro.
Et abandonner, enfin du moins pour le moment, les projets à gros budget.
Oui.
Parce que là, The Visit, c'est de l'ordre de peut-être 5 millions.
tu vois, en théorie, qu'il a peut-être choisi ce film pour ça. Peut-être qu'il savait que ce film allait se planter méchant, mais que lui allait, mais lui, qu'il allait avoir, il allait avoir un joli cachet.
Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas son nom sur l'affiche.
Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas son nom sur l'affiche. Il aurait pu s'appeler Alan Smithy, mais bon, il ne l'a pas fait. mais Alan Smithy, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pseudonyme
commun, on va dire.
Commun,
ça.
Qui peut être autorisé quand un réalisateur
a honte de son film.
A honte de son film et ne veut pas être attaché au travail de son film. En réalité, ça s'est pas souvent produit en fait, mais on a eu quelques cas d'Alan Smithy. Moi, le cas qui me vient, c'est celui qui a réalisé Happiness Therapy.
David O. Russell.
David O. Russell qui fera un film qui s'appellera, je crois, Accidental Love dans son titre international.
Ah bah, Accidental. Hein.
qui est un film où je crois qu'il se crédite en tant qu'Alan Smithy, qui est un film qui renie totalement. Effectivement, quand vous voyez sa filmo, que vous voyez ce film, vous verrez qu'il y a un truc qui cloche.
Oui, After Earth, c'était peut-être justement le moment de. Pour Shyamalan de préparer son grand retour.
Et ouais, parce que après une longue chute, on se relève.
Ah bah plutôt longue.
Non, et je dis on se relève, mais en vrai, c'est vraiment un miracle hein, ce qui s'est passé.
Et là, il peut remercier un producteur que nous, on aime bien.
Ouais, parce que moi, j'aime bien.
Jason Blum.
Il fait pas que des bonnes choses, mais j'aime bien son état d'esprit.
Jason Blum, sa société, c'est Blumhouse Productions. Qui se sont surtout fait connaître par la production de films d'horreur. Hein. On connaît tous là aujourd'hui Inside Us, Sinister.
Qui vont commencer par Paranormal Activity, qui va être son premier gros coup de maître.
En effet.
Et, voilà.
Et qui pourrait être justement aussi la thématique d'une autre émission, Paranormal Activity.
Évidemment.
On tease.
Mais voilà, après ce visite qui est du coup son premier film avec Jason Blum, est-ce que tous ces films sont bloomés? sont Jason Bloomés, tous ces films aujourd'hui, actuellement? Je ne sais pas. Je sais pas si Old Egg Knock at the Cabin, il me semble pas, je crois que c'est Universal.
Non, je crois que ça s'est arrêté à Glass.
Ouais, parce que je crois que c'est Universal ces derniers, il me semble.
Parce que Glass, qui sera son troisième film après After Earth, donc il a fait The Visit, Split, bon, on va spoiler qui est le spin-off d'Incassable, ou grossièrement Incassable 2, hein.
Split, oui, alors que moi je l'appellerais pas comme ça. Oui, si c'est un spin-off d'Incassable. Mmh. Ouais.
Qui conclut l'arc narratif d'Incassable avec du coup Glass en réunissant le personnage de Bruce Willis et de Samuel Jackson ainsi que le personnage de James McAvoy de Split. Ouais.
Qui est pour moi le vilain petit canard de son retour. Hein. Voilà, malheureusement, j'ai tous ces films depuis The Visit, je les trouve tous vraiment très bons. Sauf Glass.
Et je pense voilà que comme il avait aidé, il l'avait financé sur Split, Jason Blum, il a dû faire également Glass. Mais ça s'est arrêté. Old, c'était pas lui.
Old, c'était pas lui, d'accord, très bien. Old qui est très intéressant aussi.
Mais ça a permis du coup de lâcher un peu la pression, je pense à Shyamalan et toutes ces histoires de gros budget avec cahier des charges et compagnie, parce que là on revient à un budget réduit propre aux productions de Jason Blum.
Il fait l'inverse. Il fait complètement l'inverse de After Earth.
C'est vraiment, on a un budget limité. Débrouille-toi avec ça.
On a un budget limité, on a que des inconnus. Pour dire, on fait tout l'inverse d'After Earth. C'est ça qui est génial avec The Visit. C'est il repart totalement à zéro et surtout, il y a vraiment l'idée, on ne fait pas pareil, on fait exactement tout l'inverse. C'est-à-dire, on est dans un film on a un gros film de SF, on décide de retourner dans le bon film d'horreur de série B à l'ancienne. Des ambitions mirobolantes dans After Earth ratées, mais au départ mirobolantes quand même.
Là, on part au plus simple.
Une simple maison et surtout. Et on va en parler avec le fait que ce soit Jason Blum, c'est peut-être pour ça que ça s'est fait. En found footage, à une époque où le found footage était en fin de vie, faut le dire.
Plutôt, oui.
Quasiment très peu de found footage qui se faisait et se cassait un peu tous la gueule.
Mais j'ai l'impression en effet que c'était pour moi le dernier film en found footage de ce calibre, je veux dire.
En tout cas de ce calibre, parce qu'il y a eu beaucoup de petites productions et c'est possible qu'il y en ait eu après. Mais en tout cas, en grosse sortie found footage, ouais, je pense que c'est le dernier. Found footage commence à être un peu moins quand même attrayant financièrement.
Moins populaire.
Jason Blum commençait à en faire de moins en moins. Des fun footage, il commençait à en sortir, il n'en faisait plus beaucoup. Parce que c'est vrai que mon Paranormal Activity, il a fait que ça pendant pas mal de temps. Pendant, je dirais, 3 ans peut-être, il a fait quasiment que ça.
Et je crois que le dernier n'a pas marché. Donc,
voilà, il y a
Next,
des trucs ont marché.
Kin, oui.
Non, American Nightmare, c'est pas du fun footage. Mais il a l'esprit de production, le premier en tout cas. Mais voilà, mais donc du coup, il y a quand même un peu de prise de risque. Contrairement aussi à Will Smith, After Earth aussi, qui est à mon sens un film de non-prise de risque, et sur pas mal de points. Et donc, en fait, ouais, il fait exactement tout l'inverse. Et moi, The Visit, c'est un film que je n'ai pas du tout aimé la première fois. parce que je pense que j'étais trop dans le ressenti négatif de Shyamalan encore, et je lui faisais pas confiance. Et je crois que j'étais trop méfiant, et je le regardais le film sous un mauvais regard et un mauvais prisme.
Bah, c'est ça justement avec After Earth qui avait, on va dire, enfoncé le clou dans la carrière de Shyamalan à cette époque.
Tout le monde dit qu'il était mort. Hein.
C'est qu'on n'y croyait plus. Une seule seconde, un projet de lui, ça va être comme La jeune fille de l'eau ou Phénomène, ou peu importe.
Il était mort. Moi, j'ai entendu plein de gens dans des podcasts, des critiques et tout, annoncer la mort artistique de Shyamalan qui ne reviendra jamais, de la même façon qu'on l'a annoncé avec Burton, qui lui n'est toujours pas revenu, tu vois.
il coule encore.
Ça peut être de l'espoir, Shyamalan, au contraire, mais je pense que c'est plutôt une exception et plutôt un miracle.
Un miracle. Et du coup, The Visit, ça a été quand même le début de, sa nouvelle élévation, mais ça a été quand même Split.
Ça a été Split, ça qui va le faire relever chez tout le monde, et que tout le monde, même s'il y a des gens qui n'aiment pas Split, et que je peux entendre, hein, le Split a des défauts, hein, et moi je le mets pas dans ses meilleurs films, tu vois, par exemple Split, mais il y a un vrai retour du metteur en scène.
Exactement.
Et là, vraiment, il y a une force de l'image, chose qu'il ne quittera plus vraiment, en fait. Et ça, c'est ce dès The Visit, hein. Il remet l'image au centre de son récit. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que Shyamalan, en plus, il était, à mon sens, un peu à tort, considéré surtout comme un scénariste que comme un réalisateur.
Alors qu'il a quand même un style bien à lui, soit en termes de mise en scène. Tu l'as cité d'ailleurs dans After Earth avec le coup de la porte.
Voilà. Moi, je trouve que c'est un metteur en scène qui a vraiment une vraie esthétique assez qui est assez à lui. Et pourtant, on l'a résumé en scénariste, et on l'a résumé surtout à quelque chose qui, en fait, est très faux, parce qu'il en a fait, en fait, pas tant que ça, en fait, comme scénariste à twist. Les twists Shyamalan,
ça va le poursuivre.
Alors qu'en réalité, il y a quoi? Il y a sixième sens, Incassable.
Le village.
Alors après, moi, je pourrais considérer un peu Signe, mais on est déjà dans l'interprétation. On est déjà dans quelque chose de moins évident.
Même le twist de Split, j'arrive pas à le considérer comme un twist.
J'ai tendance à le considérer comme un twist, mais on est dans le twist méta. C'est assez particulier.
Plus méta.
Mais parce que c'est quand même assez surprenant. Alors si, je l'ai vu venir, parce que malheureusement, on l'a spoilé. J'avais un ami qui m'a dit. Bon, je te dis pas lequel, mais le film fait référence à un film de Shyamalan. Bon, bah, j'avais dîné. Hein, voilà. il y a quand tu fais par élimination, il n'y a pas 3 millions de films qui pouvaient y ressembler, parce qu'effectivement, lui, t'en rends compte que Split, si Incassable était un film sur les super-héros, Split est un film sur les super-vivants.
Ou alors quand tu dis qu'il y a Bruce Willis à la fin, je dis ah bon, d'accord.
Oui, voilà, par exemple. Bah, après, moi, je me mets à la place de tous ceux qui n'avaient pas vu Incassable, hein, parce que ça, moi, c'était un peu une critique que j'avais fait à Split à l'époque. Bah, je le trouve quand même beaucoup trop confiant du succès d'Incassable. parce que le film avait presque 20 ans.
Incassable, il me semble que ça n'a pas été un énorme succès,
c'était
contrairement à Sixième Sens.
C'était même une petite déception critique à l'époque.
Bien sûr, il a acquis son statut de film culte par la suite avec l'exploitation vidéo.
Oh, ça peut être un bide, hein. Attention. Hein,
non.
Mais oui, par rapport à Sixième Sens, ça avait... Alors que moi, alors Sixième Sens, c'est aussi très très bon. Mais Incassable, moi, je le mets vraiment au-dessus. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Incassable. S'il faut citer un seul film de Shyamalan, c'est celui-là. Je ne sais pas si c'est ton cas.
C'est vrai que moi, je suis beaucoup sur Sixième Sens. J'aime beaucoup Split aussi. Incassable, j'adore. C'est un de mes films préférés. Mais moi, j'ai quand même une affection pour Sixième Sens.
Je comprends. Et Sixième Sens, c'est un film que j'apprends à apprécier plus au fur et à mesure des années. C'est un film que je trouve beaucoup plus intelligent, en fait, qui peut en avoir l'air au départ. Parce que même dans ces films à twist, je trouve que le résumé de auteur à twist, c'est extrêmement réducteur. Résumé Sixième Sens de film à twist, c'est extrêmement réducteur. Parce que je pense sincèrement qu'on peut deviner le twist de Sixième Sens, et je dis même qu'il nous le dit, le twist.
Dès que t'arrives à assimiler les codes, en fait, de sa mise en scène, de ses visuels, tu as la réponse aussitôt.
Tu as la réponse dès les premières minutes.
La couleur rouge.
Mais même sur à quel moment il arrête là, vraiment je spoil Sixième Sens comme un bâtard, hein. Regardez les films de Shyamalan avant d'écouter cette émission,
ça sera peut-être pas coupé au montage, ça.
Voilà. Mais je trouve la scène d'ouverture vraiment folle, où justement comment il a conclu, je suis désolé, mais il y a tout qui doit nous laisser penser qu'il est mort. Quand on cut, il est allongé sur le lit, le ventre en sang, parce qu'il se prend une balle dans le bide, et on est en train de le perdre quand le cut arrive. On est en train de le perdre, et cut, qu'est-ce qu'il y a? Cut, juste après, tant d'années plus tard, Bruce Willis assis sur un banc. C'est du génie. Pourquoi c'est du génie? Parce que il joue énormément sur notre suspension d'incrédulité et sur le jeu du monde, que le jeu que le montage a là-dessus. Quand on fait une cut avec un passage de temps, ça veut dire que le personnage s'en est sorti.
Bah c'est ça, il s'en est sorti, et il aura juste en tête un événement dramatique qui s'est produit et on s'arrête là. Il est marqué, ça va peut-être sortir plus tard dans le film, on va se dire, mais ça s'arrête là.
C'est ça, il joue sur une grammaire cinématographique extrêmement connue et redondante dont il va jouer pour se tromper alors qu'il donne la réponse sous nos yeux. C'est un tour d'illusionniste incroyable, mais vraiment.
Ce serait un magicien le coup
quelque part. Et même du coup, si on se laisse pas avoir par le tour de magie, il y a des tours de magie sur lesquels on devine le truc, mais on peut être impressionné. Et je trouve que Sixième Sens, c'est aussi ça. Parce que moi, j'avais compris le twist. Mais parce que j'avais vu le film en deux fois, et je pense que c'est une chose qu'il faut absolument pas faire en général sur les films. Mais Sixième Sens, c'est vraiment le cas. La première fois que je l'ai vu, j'ai vu le film en deux fois. Et t'as le temps de cogiter. Et en vrai, si tu cogites, c'est mort. Tu devines la fin, parce que justement c'est un film qui sur lequel tu te laisses embarquer, parce que justement il y a le jeu de la continuité visuelle et le jeu de son montage qui fait que tu arrives à ne pas te poser de questions et à te laisser embobiner. Si à partir du moment où tu as une scission et où tu coupes et quand tu commences à réfléchir à prendre du recul sur ce que tu viens de voir, c'est mort. La fin elle t'est donnée. Mais même on peut quand même trouver que le film est brillant là-dessus, même en arrivant à déceler, parce que ouais, je trouve que le film aborde plein de thématiques et que ça ne se tourne pas autour du fait « Ah, Bruce Willis, en fait, il est mort ». Parce que même si tu considères qu'il est mort, même quand tu regardes la seconde vision, parce que j'ai longtemps trouvé que la seconde vision du Sixième Sens était mauvaise, à tort, en ayant revu le film
récemment.
C'est
pour ça que t'avais cette mauvaise image.
Voilà, et en fait, non. Parce qu'en fait, quand tu connais Twist, tu vois tout simplement le destin d'un personnage, le personnage de Bruce Willis, qui se renie complètement et qui doit apprendre petit à petit à accepter certaines choses et finalement ouais, à faire ce dont il n'a pas été capable de faire avec le patient qui l'a tué. Donc je trouve que c'est ça que ça raconte après tout, et que quelque part, même connaître le twist, ça permet de rentrer beaucoup plus tragiquement dans l'histoire de ce personnage. Mais voilà, désolé, sur Sixième Sens, j'avais un gros truc à dire dessus.
Mais... Ah bah je vois ça, mais lâche-toi, on est entre nous. Dire aussi qu'en termes de autres sorties hollywoodiennes, ça n'a pas trop aidé, parce que le film il est sorti, je le rappelle, en juin 2013. On avait quand même deux mois avant Iron Man 3 qui avançait d'un pas assuré vers le milliard. On avait aussi, juste un mois avant, j'ai envie de dire quelques semaines, Fast and Furious 6.
Qui était depuis Fast and Furious 5 quand même une saga extrêmement, extrêmement lucrative. Les quatre premiers ont aussi beaucoup marché. Mais à partir du 5, Fast and Furious, ça va devenir une vraie franchise juteuse.
C'est pour ça, là, on a deux valeurs sûres en termes de succès commerciaux. Hein. On parle de franchise populaire, After Earth, projet original sur le papier, qui sort un peu de nulle part, je veux dire dans le sens où c'est pas une adaptation. Il avait, sur le papier, moins de chance que ces films-là, déjà, auprès du public.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'aimerais peut-être, alors je sais, peut-être que je te coupe sur un point que tu voulais aborder, mais je voulais aborder un autre point, peut-être pour commencer à terminer. Mais la part, je voudrais revenir sur la part de Will Smith sur le film, quand même. Mm-hmm. Est-ce que tu as parlé d'inspiration officieuse ? Parce que moi, j'ai envie de parler d'officieuse.
Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on va revenir sur l'Ego Trip, voilà. Mais on ne parle pas que de Will Smith en soi, je ne veux pas dire que de sa personne. Il faut savoir que Will Smith fait partie de la Scientologie.
Exactement.
Il n'y a pas que Tom Cruise.
Beaucoup de gens à Hollywood. je crois que c'est un tiers d'Hollywood. Enfin, j'avais vu un chiffre, c'est monstrueux.
Je pourrais t'en citer trois. Bon, déjà, les deux qu'on a cités. Et John Travolta.
Il y a John Travolta, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà,
il y a... Giovanni Ribisi, il me semble.
Il y en a d'autres. Il y a des actrices aussi qui sont... je ne vais pas dire de bêtises. J'ai peur de me tromper. Mais Katie Holmes, ça c'est sûr. Mais du coup, oui, Will Smith est scientologue. Et je vous invite... à jeter un coup d'œil sur le livre qui a un peu donné naissance à la scientologie de son auteur, John L. Hubbard. Et vous allez voir qu'il y a des similitudes assez flagrantes en fait, entre les deux œuvres. Et ce n'est pas la première fois que des acteurs scientologues essayent de mettre la scientologie à Hollywood. Hein.
Encore une fois, Tom Cruise
et John Travolta, comme tu as cité, avec Battlefield Earth, qui va être un... Je ne sais pas si on en parlera un jour, celui-là, parce que...
Si,
c'est pour être intéressant, voilà. Mais...
Si, pour en parler, justement, et ce deux, parce qu'on se... Pour tout savoir, on se donne des devoirs à chaque fois pour préparer l'émission.
Je ne sais pas si j'ai envie de le voir, c'est pour ça.
On regarde les films à chaque fois, donc mais c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas vu encore.
Moi non plus.
Même si on le fait pas en émission, j'aimerais bien, juste pour ma culture perso et mon côté masochiste.
Et pour voir John Travolta avec des dreadlocks aliens, c'est ça.
Ouais, des dreadlocks en train de cabotiner comme un malade.
Enfin voilà, qui était aussi tiré d'un bouquin de John L. Hubbard. Mais là, peut-être que pour After Earth, ils ont peut-être pas dit, ils sont dit, on va peut-être pas cette fois faire la même connerie de créditer directement le bouquin, parce que. Mais à mon sens, il ne trompe personne. Je voulais un peu conclure là-dessus, mais pour moi, c'est ce qui rend le film puant aussi, et ce qui peut expliquer quelque part aussi la méfiance de pas mal de spectateurs, parce que c'est un discours qui a été dit à l'époque. Hein. C'est voilà, je l'invente pas non plus. C'est un discours qui a été dit et perçu par des spectateurs à l'époque. Donc ça a clairement pas joué non plus. Je veux dire, en plus, l'ego trip de Will Smith, voilà. Après, peut-être qu'on, tu voulais peut-être rebondir sur ce que je voulais dire.
Mais... Non, mais c'est vrai que c'était plus en mode conclusion. Pour définir After Earth, c'est-à-dire film de commande par un réalisateur en perdition, film d'un acteur à l'ego surdimensionné et surtout film scientologue. On pourrait, je pense, justement définir l'échec d'After Earth par toutes ces qualificatifs.
Je pense qu'on peut, on peut dire que ça peut être ces raisons-là, ouais, tout à fait.
Principalement. Mais en soi, en termes de conséquences, parce qu'on a parlé de Shyamalan, ça lui a permis de rebondir, mais de Will Smith, parce qu'il y a quand même des conséquences, j'ai envie de dire. Lui, en quelque part, ça n'a pas forcément entaché sa carrière, parce qu'il a continué d'autres projets. On a parlé de Suicide Squad,
il a un Oscar,
Aladdin, hein. Il a eu l'Oscar pour la méthode Williams, le récent.
Bon, on peut le contraster avec la fameuse baffe qui a fait qu'on a beaucoup plus parlé de sa baffe que de son Oscar.
Mais quand tu vois la plupart de ses projets, là justement, Suicide Squad et Aladdin, ce sont de gros succès commerciaux, mais comment dire ça, ce sont des franchises. Alors que quand tu vois les films, tu prends à part les films qu'il a fait où il n'y a que lui, je veux dire, on a quand même Diversion avec Margot Robbie, on a Seul contre tous.
Seul contre tous, ça s'est planté, hein, je crois, non ?
Ça s'est planté, oui. Ouais. On a Beauté cachée qui s'est planté également.
Ouais, c'est vrai que ça s'est planté méchant.
On a... alors j'en ai un autre.
Diversion, ça s'est planté, vraiment ?
Pas tant que ça.
Pas tant que ça, il me semble que Diversion a un peu marché quand même.
De la part de Will Smith, justement, quand tu le compares à La Recherche du Bonheur, c'est un peu viandé à côté, je veux dire.
Oui, c'est vrai que ça cadre.
On était très loin justement des films comme Je suis une légende, Hancock, et même en termes de blockbuster.
Men in Black.
Mais même en termes de blockbuster, parce que là j'ai parlé de films un peu plus confidentiels, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Gemini Man.
Ah bah oui, Gemini Man, ça va se planter.
C'est un gros blockbuster et il s'est cassé les dents.
Ça va
mais...
être un complet bide. Alors. C'est pas vraiment de la faute de Will Smith pour le coup là.
Ah bah je pense aussi il y a le côté un film de Will Smith encore parce que vu qu'il apparaît deux fois.
Mais
Will
c'est Smith, surtout Smith. Que j'ai cru entendre que quand tu regardes le film en dehors du cadre dans lequel il devrait être regardé, c'est-à-dire je crois qu'il l'a tourné en en 64 images, je sais plus, un truc
la
comme ça.
Mode justement images, que faisait Peter Jackson avec le Hobbit.
Mais lui, je crois que c'était encore plus haut. Et apparemment, ceux qui l'ont vu dans ces conditions trouvent le film assez fou sur certains moments. Par contre, il paraît que si tu le regardes dans une salle de cinéma lambda, le film est incroyablement laid et moche.
Plutôt, ça a été mon cas et j'ai pas du tout apprécié la séance.
Et en fait, il y a même des moments où ça fait bizarre à l'œil, ça fait chelou. Là où il paraît que quand tu le regardes dans les conditions qu'il faut, apparemment, là, t'as une claque, visuelle en tout cas.
Mais voilà. C'est là où je voulais en venir, c'est que Will Smith, il enchaînait les projets, c'était toujours un succès. C'était l'un des rares encore à faire fonctionner le star system, de faire venir les gens rien que par son nom. Je trouve que justement, depuis After Earth, depuis que tout le monde a vu son ego, bah, il fonctionne moins que ça.
Il y a quoi avant After Earth, pour se resituer ?
Tout dire, je vais faire toute sa filmographie depuis 2006, donc À la recherche du bonheur, ouais. Je suis une légende, Hancock, Cette vie, comme on disait en off, c'est pas forcément son plus grand succès, mais c'est vrai que là, il n'y avait pas forcément de grosses promos. Ouais,
c'est par le même réel que La recherche du bonheur, donc on est un peu dans ce même type de promo aussi, un peu ce même type de rôle, donc il fait moins, mais ça va quand même.
On revient sur une franchise, Men in Black 3.
Qui se plante pas, je crois.
Ah non, pas du tout. Il avait fonctionné.
Il marche plutôt bien. Le film, je trouve très mauvais, mais il marche plutôt bien.
Et là, arrive After Earth. Et par la suite, il fait plutôt des apparitions dans Légende vivante, encore Man 2, du coup.
Oui, bon, ça, c'est un caméo.
Un amour d'hiver. Ouais. Diversion. Oui. Seul contre tous. Suicide Squad, donc franchise. Beauté cachée. Bright pour Netflix, qui avait assez bien fonctionné quand même.
Il a fonctionné, il s'est fait casser par la critique.
Ça par contre, et il a oublié, j'ai envie de te dire.
Oui, tout le monde a oublié. D'un réalisateur, malheureusement, qui aurait pu être bien meilleur.
Mais bon. Aladdin.
Aladdin, qui lui, par contre, est un succès.
Et franchise. Enfin, entre guillemets, franchise, c'est quand même le patrimoine d'animation Disney à ce moment-là. Adaptation. Donc, c'est pas un projet, je veux dire, sorti de nulle part.
Non, c'est pas un projet de sorti de nulle part. Mais le nom Will Smith, il avait fait gueuler à l'époque. Hein, moi, je me rappelle. Quand les gens ont vu Will Smith. Pour dire quoi, t'as raison. Qu'effectivement, je crois que son ego à After Earth a été assez néfaste. Parce que même quand il sort dans Aladdin, je l'ai dit tout à l'heure, mais à mon sens, c'est plutôt une des qualités du film, Will Smith, pour le coup. Mais quand il y a son annonce et quand il y a les premiers visus qui arrivent, mais tout le monde insulte le Will Smith, hein, vraiment. Enfin, je me souviens, il y avait les gens disaient, il y a Suicide Squad aussi qui a beaucoup joué sur son image.
C'est bien sorti.
Énormément. Alors, bon, il est pas forcément le problème numéro un du film. Hein. Il est un des très nombreux soucis.
Mais du coup, après Aladdin, il enchaîne avec Gemini Man, comme on en parlait.
Gemini Man, et puis après.
Et on revient à une franchise, nouveau succès, Bad Boys for Life, Bad Boys 3. Will Smith, je ne veux pas dire qu'il était en perdition, mais il n'avait pas une aussi bonne image auprès du public qu'il avait avant.
Et peut-être que After Earth, ça va être. Alors, je ne dis pas qu'il n'était pas considéré comme un énorme ego, mais peut-être que là, ouais, effectivement, ça va énormément jouer. Sur une image publique. After Earth, c'est peut-être le début de quelque chose qui va être poursuivi avec Suicide Squad et par sa baffe.
Des années plus tard, pour le coup, entre Suicide Squad et la baffe, mais ça a enclenché. Ouais.
Ça a enclenché. Et pourtant, on aurait pu parler de revival, hein, parce que au moins il met la baffe, il le sait pas encore, mais il va avoir l'Oscar quelques heures plus tard.
Pour la méthode Williams.
Donc ça aurait pu être une remontada, mais il se trouve que personne parlera du film, et personne parlera de son Oscar, à cause de sa baffe. Mais ça c'est purement de sa faute. Hein.
Même si c'est pas forcément la bonne période des films en termes de chiffres avec encore la sortie Covid. Mais je pense que la baffe, ça, personne n'est allé voir le film à cause justement de la médiatisation de son geste.
Et je trouve que de plus en plus, alors sur des saisons genre Aladdin par exemple, bon je pense pas parce que ça paraît un gros projet et tout, mais sa filmo quand même se dessine quelque chose et dit quelque chose sur lui quand même qui n'est pas forcément très flatteur. Je trouve il y a quand même quelque chose, une sorte un peu de... qui se voit d'After Earth, mais on peut en parler sur la méthode Williams. Hein, une sorte de secte familiale où la famille doit être quelque chose de très fort et de primordial, mais pas de façon, façon saine, je trouve. Il y a un truc, un rapport assez malsain qu'il a dans son rapport à la famille, je trouve, et qui retranscrit pas mal dans ses films. Mais même à La recherche du bonheur, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas très sains dans la façon dont il montre un certain amour entre son père et son fils. Quand je dis pas très sain, c'est pas ce qu'on peut sous-entendre. Hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre, à mon sens, plus à mon sens de la. Je sais pas, de la mise en avant de manière un peu un peu voyeuriste de sa famille, je trouve, quelque chose d'assez, ouais, d'assez voyeuriste, d'assez...
Je vois ce que tu veux dire, oui.
Voilà, et on va y revenir sur... Je reviens sur la méthode Williams, c'est un film que j'ai pas vu, donc je vais pas non plus trop spéculer. Mais de par rapport à ce qu'on a dit, et par rapport à ce que je connais de Richard Williams, le vrai Richard Williams, donc père de Vénus et Serena...
Et je confirme, on en a parlé.
On en avait parlé en off.
C'est moi qui te l'ai dit.
oui, tu me l'as... Parce que toi, tu as vu le film, je crois.
Oui, tout à
fait. Moi, donc tu me le confirmeras, mais... Richard Williams s'est montré quand même comme un bon gentil papa, quoi. Alors que quand même, il est reconnu pour être quelqu'un d'extrêmement problématique, le Richard Williams.
Ah bah là, il est tout simplement montré comme un papa, certes, sévère, qui veut vraiment...
Dur mais juste.
Exactement, dur et juste, qui veut un entraînement parfait pour que ses filles atteignent la perfection en termes de compétences, de qualité sportive, hein, j'entends. On est loin du tyran qu'on pensait voir dans ce film. C'est vraiment le biopic hollywoodien tout gentillet.
On est quand même, à mon sens, le Richard Williams, on est quand même plus proche du père de Michael Jackson que du bon père de famille, j'ai l'impression, quand même, dans le vrai Richard Williams. C'est pour ça que, de ce que je connais de l'histoire, il était quand même vu comme un père extrêmement tyrannique et dur avec ses filles, de faire de les... Bah ouais, mais ça, c'est très courant dans le sport, hein, mais malheureusement, et dans le tennis, pas mal, d'ailleurs, alors, je dirais torture, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas, il y a une obligation assez et une restriction extrêmement stricte, une éducation extrêmement dure et stricte sur des enfants dans l'unique but d'avoir une performance.
C'est ça, la perfection.
Voilà, et donc ça, à mon sens, c'est un rapport très malsain à l'éducation. Et j'ai l'impression, et tu me dis que dans le film, c'est pas du tout montré de manière néfaste, cette façon de procéder.
Je veux pas cacher que j'ai pas forcément un grand souvenir. Ouais. Bon, moi, personnellement, j'avais quand même apprécié le film pour ce qu'il était.
Ouais.
Mais j'ai clairement pas le souvenir d'un personnage tyrannique, hein. Loin de là. C'est vraiment le bon père de famille, comme Will Smith aime si bien les interpréter depuis pas mal de films.
Parce que même dans Suicide Squad, hein. On parle, c'est quoi, même ça. Ah, si bien, quand à un moment donné, tu te demandes si Will Smith met pas le nez dans les scénarios quand il est impliqué dans un film, parce que
il
y a vraiment des thématiques qui reviennent très souvent.
Mais justement, depuis After Earth, on a tout le temps cette impression.
Ouais. Oui, c'est
tout
vrai.
Ce qu'on pourrait ressortir, justement.
C'est vrai. Alors, qui ces thématiques étaient présentes avant After Earth, hein,
largement. Bah, La Recherche du Bonheur, encore une fois.
La Recherche du Bonheur, par exemple. Voilà.
Bah, mais... je suis une légende. Il y avait quand même une histoire.
Bon, bien sûr. Il y a un peu de ça, ouais, dans une légende. Ouais, c'est vrai.
Par rapport à ses flashbacks, la famille qu'il a perdue. Et non, Hancock, non, c'était différent, Hancock.
Non, Hancock, pour le coup, c'est assez différent. Et Hancock, peut-être, c'est aussi un des Will Smith que je sauve aussi. Mais où je trouve Will Smith plutôt assez convaincant dans celui-là. Je trouve qu'à la fin du film, il peut arriver à m'émouvoir dans Hancock. C'est rare que Will Smith arrive à m'émouvoir, mais d'habitude, j'y crois pas. Quand Will Smith pleure, j'y crois pas. Voilà, mais d'habitude, moi, dans La Charte du Bonheur, j'y crois jamais, par exemple. Mais dans cette vie, je l'ai pas vu parce que je crois que c'est du gros mélo.
Oui.
Et j'ai vu plusieurs extraits. On le voyait beaucoup avec les yeux mouillés.
Et justement, son twist, il joue pour beaucoup.
Oui. Il joue pas mal sur les gens qui ont apprécié le film. Ouais. Il est, paraît-il, pas mal scénaristiquement intéressant. Je l'ai pas vu, mais voilà.
J'en ai un bon souvenir.
Tu en parleras en off, mais voilà.
Mais c'est vrai que le côté mélo, je retiens bien. Mais voilà, à contrario de Will Smith, Shia Malan en a tiré quelque chose, parce qu'on parlait des films,
exactement.
Mais c'est vrai qu'en parallèle, il a produit des séries.
Oui. Il a produit The Servant, si j'ai
The Servant.
Et avant, il fera le pilote. Il fera le pilote d'une autre série dont j'ai plus le nom.
On vous invite à aller la chercher.
On vous invite à aller chercher ça.
Et nous avions un réalisateur en perdition qui maintenant enchaîne les projets à nouveau. Bah, là, il est en train de préparer son tout nouveau film déjà, malgré l'échec de Knock at the Cabin. Il prépare. Alors, c'est assez rigolo parce que quand on lit pour l'instant le synopsis. Ça rappelle une de ses productions qui était sortie pendant sa mauvaise période, qui était Devil.
Oui, ah putain, ça aussi c'était vraiment pas bien.
Il avait produit ce film également.
Pour dire que Shyamalan c'est pas un scénariste, hein, parce que son scénario est quand même extrêmement mauvais. Hein. Et je pense que le film était meilleur s'il était à la mise en scène.
Bah, je me pose la question parce que là, son nouveau film, le synopsis, c'est celui de Devil.
Ouais.
Vraiment. Alors, est-ce que c'est une réadaptation entre guillemets, enfin un remake? Est-ce qu'il y croit en cette histoire au point de lui redonner sa chance? Ou alors on part complètement dans d'autres théories, ça se trouve ça n'a rien à voir. Mais on est encore dans cette idée de personnes d'inconnus qui se retrouvent enfermées dans un ascenseur bloqué et il va se passer des choses étranges, ils vont être éliminés un par un.
Ouais, est-ce qu'il y a une histoire de diable? Parce que c'est le concept de Devil, c'est que le diable se trouvait dans l'ascenseur. Voilà. Et il y avait un jeu de Woodonitz un peu de savoir qui était l'usurpateur, qui était le diable parmi ce groupe de personnes dans l'ascenseur. Le concept de départ est assez marrant et assez cool, hein. Mais je trouve qu'il est juste très mal exécuté.
Bah pour le moment, on n'a pas plus d'infos que ça.
Et très très mal réalisé, c'est le plus gros défaut du film. En fait.
Ouais, mais c'est pas lui qui le réalisait aussi.
Et donc c'est pour ça. Peut-être que ça sera meilleur.
Peut-être.
Parce que le concept de départ est quand même assez alléchant.
Non, mais ça m'a fait plaisir de parler d'After Earth avec toi.
Vraiment. Avec grand plaisir. Mais je suis très content d'en parler avec toi.
Et j'espère qu'on en parlera. On parlera bien sûr d'autres projets parce que là, on a déjà une idée parce que pour la future émission.
Est-ce que tu vas annoncer de quoi on va parler?
Un film par émission ou alors certaines émissions, ça sera des thématiques. Mais là, pour l'instant, on avait choisi After Earth pour tout simplement parler d'échecs. Nous reviendrons la prochaine fois pour parler d'un succès. Les Dents de la Mer.
Exactement. Je ne vous ferai pas la musique à la bouche, mais vous l'avez tous en tête.
Et on parlait de Shyamalan, justement, une petite affiliation à Spielberg, une petite comparaison. Bah, quoi de mieux que de parler de Spielberg.
Exactement, c'est parfait.
Bon, bah sur ce, j'espère que cette première émission vous a plu. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à parler, si vous n'êtes pas encore rendu compte. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour déchiffrer des films. Ciao.
Salut.